Bonsoir à toutes et à tous. Des records de chaleur qui tombent partout en France, à Lille, à Rouen, à Paris. On a pulvérisé le record de 1947 avec une température cet après-midi de 42,6 degrés. Le nord de la France est en alerte rouge à la canicule. Une étude internationale montre que ce réchauffement est non seulement planétaire, mais aussi inédit du fait de son amplitude et de sa vitesse. Cela veut dire qu'une nouvelle carte de France est en train de se dessiner avec de nouveaux paysages. Mais cela veut surtout et aussi dire qu'il va falloir nous habituer avec ces vagues de chaleur à répétition. Alors, quels sont les bons gestes? Comment s'adapter à ce bouleversement climatique sans précédent? C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air que nous avons décidé d'intituler ce soir « La France suffoque ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Gérald Kierzek. Vous êtes médecin urgentiste et chroniqueur médical. Bonsoir. Nous accueillons Jean-Marc Vittori, éditorialiste au journal Les Échos. On retrouve chaque matin votre édito Écho dans la matinale de l'été sur France Inter. Anne-Laure Barral, journaliste spécialiste des questions environnementales à France Info. Et enfin, Alice Desbiol, vous êtes médecin de santé publique, spécialiste en santé environnementale. Anne-Laure Barral, commence par vous, la spécialiste du climat. C'est fou parce que le réchauffement climatique, jusqu'à présent, on en parlait beaucoup, mais là, on le vit, et c'est violent, et c'est même angoissant, tous ces records qui tombent là partout.
Alors peut-être parce qu'on n'a pas assez écouté les rapports du GIEC, hein, qui ont été lancés déjà dans les années 80, qui alertaient un petit peu sur les conséquences de nos émissions de CO2, du réchauffement de la planète et donc de canicules plus fréquentes. Ça, c'est quelque chose qui est assez vite apparu dans les rapports des scientifiques. Et puis le dernier rapport du GIEC en octobre dernier parlait de qu'est-ce que c'est qu'un monde à 1,5 degré, à 2 degrés. On se dit, bon, je vais enlever un pull. C'est pas bien grave. En fait, non, ça montre que la fréquence des canicules et les températures montent énormément. Et vous le dites, on bat des records de température aujourd'hui, mais on bat des records de température sous abri, à midi.
Si vous prenez 42,6, voilà, il est à l'ombre, là.
Oui, si vous prenez, par exemple, si vous restez sur le périphérique quelques minutes, vous allez voir que ça monte plutôt à 60 degrés. Ah oui. Donc on a ces records qui sont des moyennes pris dans des conditions particulières par les stations météo, mais effectivement vivre dans un climat beaucoup plus chaud. Les scientifiques l'ont dit petit à petit dans leur rapport, c'est l'écoute qu'on a eue sur leur rapport qui a changé. Et le dernier rapport disait, en gros, il nous reste 2 ans pour agir parce que dans 12 ans, on y sera dans un monde à 1,5 degré. Et donc, ces canicules seront plus intenses et plus fréquentes.
C'est vrai qu'on nous disait 1,5 degré et là, vous me parlez d'un ressenti de 60 degrés. Docteur Kierzek, en venant ici, vous me disiez sur le périphérique, c'est intenable. Et c'est vrai qu'il y a ce vent-là, chaud, qui vous brûle. On assiste en fait à de nouvelles pathologies qu'on ne connaissait pas et auxquelles vous n'étiez pas préparé, vous, quand vous étiez étudiant.
Ah, c'est clair que la canicule, ce n'était pas quelque chose dont on nous parlait. Les coups de chaleur, parce qu'il y a plusieurs choses quand même. Vous parlez de vent, mais très souvent, il n'y a pas d'air. Donc, on voit bien que c'est la décompensation de malades respiratoires, par exemple des asthmatiques, des patients qui ont des insuffisances respiratoires ou des insuffisances cardiaques, des malades chroniques fragilisés qui, parce qu'il n'y a pas d'air, parce qu'il y a des températures importantes, vont avoir du mal et vont avoir ce que nous, on appelle dans le jargon décompensé, c'est-à-dire vont avoir une poussée d'asthme, une crise d'asthme, vont avoir une crise d'insuffisance respiratoire. Alors ça, on connaissait, mais dans les facteurs déclenchants, c'est vrai qu'on ne pensait pas forcément à ces fortes chaleurs. Et puis, il y a la deuxième partie.
Parce que ça, le corps est angoissé et on n'arrive plus à respirer.
Parce qu'il n'y a pas d'air, parce que la température est suffocante, parce que les traitements, là aussi, nécessitent une adaptation. Quand vous avez une insuffisance cardiaque ou une insuffisance respiratoire, parfois, vous avez des médicaments, notamment pour le cœur, qui vont plus ou moins déshydrater, qu'il va falloir adapter. Et ces médicaments, en fonction de la température, font parfois trop d'effets ou pas assez. Et le corps a besoin de s'adapter extrêmement rapidement. Quand vous avez un corps qui est déjà fragilisé, il s'adapte moins rapidement, d'où malheureusement les décès chez ces malades qui sont les malades les plus fragiles. Mais ce dont on ne parlait pas du tout, en tout cas qu'on voyait dans les bouquins, c'était les coups de chaleur aussi, les coups de chaleur d'exercice qu'on est en train de voir aussi. C'est-à-dire qu'il y a des populations fragiles, mais il y a aussi des gens en pleine santé qui ne vont pas écouter les conseils et qui vont aller faire du sport, du jogging, etc. Et ces coups de chaleur d'exercice ou ces coups de chaleur professionnels, parce que c'est le grutier en haut de sa grue qui, avec la température, continue à travailler, ou les personnels des BTP qui sont en extérieur, c'était des pathologies qui étaient rarissimes et qui là, on le voit en médecine d'urgence, en intervention SAMU, malheureusement, quand les gens ne respectent pas, ça aussi c'était des choses qui étaient très théoriques pour nous, qu'on voyait éventuellement sur des pèlerinages à la Mecque ou sur de la médicalisation de rallyes sportifs à l'extérieur de France et qu'on voit maintenant sous nos contrées.
Alice Desbiol, il y a quelque chose de tout bête mais de très prégnant, c'est que la nuit, on a du mal à dormir. Est-ce que c'est normal qu'on ressente plus durement cette chaleur la nuit et est-ce qu'on ne peut rien faire à part malheureusement s'équiper en climatisation.
Alors effectivement, la définition de la canicule, c'est des températures supérieures au seuil qui sont définies selon les départements et des températures qui restent élevées le jour comme la nuit pendant au moins 3 jours consécutifs. Donc le fait que la température ne baisse pas la nuit, c'est vraiment la définition de la canicule. Et effectivement, c'est beaucoup plus dur pour l'organisme, puisque comme le disait mon confrère, l'organisme, pour s'adapter aux augmentations de température, ça lui demande de l'énergie, ça fatigue, et au bout d'un moment, les capacités d'adaptation peuvent être épuisées. Et si la nuit, on ne peut pas récupérer des efforts qui ont été fournis la journée pour mener sa vie de tous les jours et en plus pour permettre la thermorégulation de l'organisme, derrière, c'est encore plus dur de récupérer pour le corps.
Et on dort mal la nuit, on est réveillé par cette chaleur.
Et d'ailleurs, la canicule, hein, on le sait, il y a des données scientifiques qui nous montrent que ça entraîne une baisse de la productivité, une fatigue ensuite sur la journée. Donc c'est vraiment un cercle vicieux. Et plutôt que de s'équiper en climatiseur, ce qui contribue à augmenter les émissions de gaz à effet de serre, et donc c'est un cercle vicieux, mieux vaut essayer d'autres alternatives comme un ventilateur, comme une douche tiède juste avant de se coucher, un pain de glace sous l'oreiller, ce genre de petites astuces.
Il y a des astuces de grand-mère qu'il va nous falloir apprendre à mettre en œuvre.
Le ministère de la Santé communique.
Jean-Marc Vittori, alors le réchauffement climatique, pour l'instant c'était un sujet aussi très agricole. On s'aperçoit que ça dépasse largement l'agriculture. Maintenant, on nous dit de plus prendre le train. On nous dit même qu'il y a des centrales nucléaires à l'arrêt qui ne peuvent plus fonctionner parce qu'elles n'étaient pas prévues pour fonctionner avec 40 degrés.
Alors, il ne faut pas exagérer. C'est d'abord la fête pour les glaciers. Hein. Les glaciers, les ventes explosent.
Ah oui, alors il y en a qui en profitent.
Fin juin, les ventes de glace en bac, plus 47%. Donc voilà, il y a des gens pour qui c'est très bien. Ceux qui vendent de l'eau aussi, qu'il y ait des bulles ou pas, ça marche très très bien. Mais alors pour les autres, tout le reste, ça tourne au ralenti. Vous avez parlé des trains. Les rails, ils sont en fer, donc ils se dilatent. Et quand ils se dilatent trop, si les trains roulent trop vite dessus, ça risque de le déformer. Donc on vous demande... Enfin, si vous prenez le train, il roule moins vite, on vous demande de préférence de ne pas le prendre. Il se passe la même chose dans plein de domaines. Le BTP, ben, sur un chantier, quand on travaille, il fait chaud, et là, il fait encore plus chaud. Donc, on commence plus tôt, on fait des pauses plus longues, on est obligé de prendre des précautions qu'on ne prend pas d'habitude. Les centrales nucléaires, elles peuvent tourner même quand il fait chaud, mais il faut en permanence les refroidir. Et on les refroidit avec l'eau des rivières. Le problème, quand il fait ce temps-là, c'est premièrement, dans les rivières, il y a moins d'eau. Deuxièmement, cette eau, elle est plus chaude. Et il ne faut pas rejeter de l'eau trop chaude, parce que sinon, derrière, c'est la catastrophe pour toute la vie qu'il y a derrière.
C'est pour préserver la vie aquatique, voilà.
Exactement.
Dans les rivières.
Il y a des règles qui sont très précises et que respecte scrupuleusement EDF. Et donc, parfois, il faut arrêter la centrale parce qu'on ne peut pas la refroidir assez pour qu'elle tourne normalement. Et les usines, on a aussi exactement la même chose. Et puis le corps fatigue. Hein, le corps fatigue, il devient moins efficace. Il y a des mesures, effectivement, de productivité. Et c'est quelque chose qu'on observe depuis très longtemps, puisque Montesquieu disait déjà « La chaleur du climat peut être si excessive que le corps y sera absolument sans force. »
Voilà, mais c'est bien, ça fait chic de citer Montesquieu. Alors, record absolu de chaleur à Paris, 42,6 degrés, on l'a dit cet après-midi. 20 départements du Nord sont actuellement placés en alerte rouge canicule. Conséquence, on l'a dit à l'instant, les conditions de travail et de circulation sont particulièrement difficiles. Voyez ce reportage de Juliette Perrault et Nicolas Baudry-Dasson.
Le gouvernement sur le pont, alors que la canicule atteint un niveau d'alerte inédit en France. Ce matin, visite d'un centre de loisirs pour le Premier ministre Édouard Philippe et la ministre de la Santé Agnès Buzyn.
Les records de température que l'on constate, particulièrement dans les milieux urbains, ne sont jamais arrivés. Et tout ça présente des risques importants pour les plus fragiles, mais aussi pour les personnes qui sont en bonne santé et qui pensent que, certes, il y a de la chaleur, certes, c'est une gêne, mais enfin, on peut continuer à faire comme avant. La vérité, c'est qu'à ce niveau de température, nos organismes ne sont que très peu habitués à ce niveau de température, et il faut donc être extrêmement vigilant, faire attention à soi-même, s'hydrater, faire attention aux autres.
Une mobilisation générale, pas moins de 11 ministres ou secrétaires d'État sur le terrain aujourd'hui. Parmi eux, Elisabeth Borne, la nouvelle ministre de la Transition écologique, venue tôt ce matin à la gare Saint-Lazare.
J'appelle tous ceux qui peuvent éviter, différer leur déplacement à le faire. Les employeurs, les salariés qui peuvent recourir au télétravail sont vraiment invités à le faire.
Pour la première fois en France, 20 départements sont placés en vigilance absolue. Plus de 42 degrés à Paris, le record datant de 1947 a été battu. Des températures extrêmes et des conditions de travail éprouvantes comme pour ces gaziers, obligés de garder leur équipement de sécurité.
On est obligé d'avoir donc la double couche. La double couche, donc un polo ou un t-shirt manche courte en dessous. Le casque, évidemment, qui fait bien transpirer, comme vous le voyez. La veste, donc la double couche qui est là. Et puis un vêtement de haute visibilité.
Des organismes soumis à rude épreuve, mais aussi des infrastructures fragilisées par les fortes chaleurs. Hier, un incendie s'est déclenché dans un transformateur électrique de la gare de Noisy-le-Sec, entraînant une interruption totale du trafic pendant plusieurs heures. Comme lors du dernier pic de canicule, la SNCF conseille aux voyageurs de reporter ou d'annuler leurs déplacements. Une mesure de précaution car sous l'effet des fortes chaleurs, le rail peut se dilater.
On a des coupons de rail témoins qui nous permettent de connaître la température à l'intérieur de nos rails. Donc ces coupons sont dispatchés sur l'ensemble de notre réseau. Et donc ce que vous voyez dedans, c'est un petit thermomètre qui nous permet d'avoir la température exacte du rail.
Avec un seuil critique à ne pas dépasser, 55 degrés. Au-delà, les voies risquent de se déformer, entraînant des retards de train à répétition. Des dysfonctionnements qui touche aussi les centrales nucléaires comme celle de Golfech dans le Tarn-et-Garonne. Depuis hier, les deux réacteurs sont à l'arrêt. L'eau pompée dans la rivière pour les refroidir ne peut plus être rejetée. Trop chaude, elle pourrait nuire à l'environnement aquatique.
Le fonctionnement des centrales nucléaires est encadré par des limites à respecter, notamment sur la température des rivières près desquelles elles sont installées. Et lorsque nous atteignons ces limites, eh bien, il faut soit baisser la production, soit arrêter complètement le réacteur.
Un ralentissement de l'activité qui touche de nombreux secteurs, en plus du BTP et des transports, l'agriculture, la restauration ou encore les emplois saisonniers extérieurs. Résultat, un manque à gagner pour l'économie française. Selon un rapport sénatorial, la canicule de 2003 aurait ainsi coûté au pays entre 1,5 et 3 milliards d'euros.
Oui, Jean-Marc Vittori, vous avez vu, en 2003, la canicule, selon un rapport du Sénat, a ôté entre 0,1 et 0,2 % de points de croissance.
Oui, c'est une estimation. La canicule avait été particulièrement longue. Hein. Il me semble qu'on avait eu pratiquement
19 jours,
pratiquement 3 semaines, c'est ce que j'avais en tête. Donc là, effectivement, on voit la morsure sur l'économie.
Et ça va peser sur la croissance, là, cette année ?
Non, parce que...
Il y en a eu deux, quand même.
Sans doute pas de manière visible.
Ouais.
Clairement, pour un certain nombre de secteurs, ça va peser. On va le voir dans les comptes des agriculteurs, on va le voir dans toute une série de comptes. À l'échelle du pays, le mouvement a sans doute été heureusement trop court pour qu'on ne voit pas un coup de froid sur l'ensemble de l'économie. Voilà.
Un coup de chaud sur la croissance. Un coup de froid. Question téléspectateur. Circulation différenciée, invitation de la SNCF à éviter le train. Comment font les gens pour aller travailler à Nord-Barral ? Si on ne peut pas prendre la voiture, on ne peut pas prendre le train. Comment on y va?
Alors, la circulation différenciée, je tiens à rappeler qu'elle a plein de dérogations, notamment à partir du moment où vous transportez plusieurs personnes dans votre voiture. Donc, il y a des adaptations quand même possibles. J'ai une voiture à critère 3.
Critère 3, elle est interdite.
Elle
si
est
jamais
interdite,
on est seul.
Mais si j'emmène mon collègue, mon voisin, si on s'arrange, on peut s'organiser. Donc, c'est intéressant ce genre de questions. Ça montre à la fois, on s'alerte sur les maux qui nous touchent aujourd'hui, c'est-à-dire la canicule, la pollution, le réchauffement climatique. Mais quand il faut agir et que ça nous touche directement, c'est-à-dire comment je me transporte, comment je m'adapte, là c'est beaucoup plus dur. Et en fait, c'est ça le problème du climat. Les climatologues alertent depuis très longtemps sur ces conséquences. Aujourd'hui, les faits, ça se vérifie dans les faits, dans ce qu'ils ont dit il y a 30 ans, dans des statistiques de Météo France. Peut-être que même leurs scénarios vont être un peu dépassé quand on voit le permafrost qui fond beaucoup plus vite que prévu dans les zones arctiques. Mais quand
On peut montrer cette photo épouvantable qui est à la une du Monde aujourd'hui,
qui
montre effectivement, puisque récemment, là, à 900 km du pôle Nord, on a enregistré une température record de 21 degrés. Donc on voit les glaciers qui fondent et on voit effectivement des chiens en train de marcher sur un glacier fondu. On se rend compte quand même que le problème est mondial. Et alors, dites-moi si je dis une bêtise, mais on a l'impression qu'il n'y a que les Européens qui ont envie de se retrousser, ou en tous les cas d'agir, pour limiter ce réchauffement climatique, et que le reste du monde, qui est autant concerné que nous, a l'air de dire c'est moi mon problème.
Je pense que c'est le prisme Donald Trump qui vous fait dire ça, parce que le plus gros, un des plus gros émetteurs après la Chine, mais l'émetteur historique, a décidé d'élire un président qui ne veut pas faire d'efforts et qui ne veut pas poursuivre les négociations sur l'accord de Paris, sur le climat. Mais après, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une association qui s'appelle Global Change qui regroupe des centaines de villes, de collectivités, d'États fédérés dans le monde entier, que ce soit en Amérique du Sud, en Chine, en Inde, aux États-Unis, pour dire, nous, on les vit, en fait, les conséquences du réchauffement climatique dans nos villes. Aujourd'hui, on a des problèmes pour d'îlots de chaleur, on ne sait pas comment protéger les gens. On veut faire des efforts pour faire plus de transports en commun, pour avoir moins d'émissions de nos centrales à charbon. Mais voilà, pour agir, parfois, on a besoin de l'aide de l'État et parfois, on le fait tout seul.
Jean-Marc Vittori, les pays où il fait déjà très chaud, comme les États-Unis ou le Japon, ils sont climatisés à 90%. On va être honnête. Individuellement, c'est chacun ce qu'on va faire dans notre coin. Et dans 10 ans, on sera tous climatisés comme aux États-Unis.
C'est tout à fait possible. Tout à fait possible. Il y a beaucoup de pays qui ont des climats qui sont plus extrêmes que ce qu'on a en Europe de façon générale. Donc ils sont adaptés d'une manière ou d'une autre, soit par des constructions d'habitats particulières, soit par des installations de climatisation systématiques ou presque. En Europe, pendant très longtemps, on a eu des climats tempérés. Le climat est beaucoup plus tempéré en Europe qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, vous avez une large partie du territoire qui est avec un climat très continental et assez dur, avec des contrastes très forts entre l'été et l'hiver. L'Europe, on a eu un climat tempéré, donc on n'a pas construit en fonction de la possibilité d'épisodes caniculaires répétés. On a construit pour une canicule de temps en temps, donc on s'en fiche. Quand ça revient de manière répétée, c'est tout qu'il faut réorganiser. C'est la question qu'on se pose en Europe, et c'est pour ça qu'on se la pose avec moins d'acuité dans des pays où on a intégré ces épisodes extrêmes depuis beaucoup plus longtemps.
Mais comme le disait Alice Débiol, c'est le serpent qui se mord la queue, puisque la climatisation est très énergivore.
Bien sûr.
Je crois qu'aux États-Unis, en été, la moitié de la consommation d'électricité, c'est pour de la clim.
On a battu d'ailleurs hier en France un record de production d'électricité estivale, pas hivernale, parce qu'en hiver, il faut beaucoup plus d'électricité pour faire chauffer. En été, on a battu un record hier parce que les climatisations et aussi les ventilateurs, mais enfin les rapports de consommation ne sont pas du tout les mêmes, mais les climatiseurs fonctionnent.
Donc on va avoir des pics,
à fond.
Comme en Espagne, on va avoir des pics de consommation d'électricité.
Exactement.
Maintenant, l'été.
C'est ce qu'on a déjà. Ça rejoint ce que disait Anne-Laure. On a tendance à croire que c'est pour demain ou après-demain, mais en fait, c'est pour aujourd'hui.
Il y a déjà des endroits stratégiques qu'il faudrait, avant que ça soit l'habitat individuel, il y a des endroits stratégiques où on voit bien qu'on n'est pas prêt. J'étais encore tout à l'heure à l'hôpital Cochin, les chambres des malades hospitalisés en chirurgie ne sont pas climatisées. On voit bien qu'on est au cœur de Paris, dans un grand hôpital, un des plus gros services de chirurgie. Eh bien, il n'y a pas de climatisation. Donc là, il va y avoir des priorisations à faire et prioriser probablement des endroits comme alors, les EHPAD pour les personnes âgées, les hôpitaux, bien sûr, avant l'habitat individuel.
Ensuite,
mais on est très en retard parce qu'on n'est pas habitué.
Les écoles,
exactement. On a vu que le brevet avait été reporté parce que les habitations ne sont pas prévues. Les
Alors, Barral, vous voyez vers là, si vous voulez. On va vers climatisation généralisée, là.
Mais la climatisation, ce sera une solution de court terme, puisque à un moment, on va se poser la question du coût énergétique pour les uns. Est-ce qu'on aura tous les moyens de payer une facture très chère l'hiver pour le chauffage et très chère l'été
L'hiver pour le chauffage, ça sera moins.
Pour
moins
le climatiseur. A priori, ça devrait baisser vu que les hivers sont assez doux, ça devrait baisser. Mais c'est un coût qui. Et on le disait, il y a une tension sur la production d'électricité. Alors, on n'est pas au niveau de nos pics de consommation hivernaux, mais les centrales nucléaires, elles ne peuvent pas utiliser de l'eau trop chaude non plus. Enfin, ça baisse la production aussi. Si l'eau est trop chaude quand elle rentre dans le réacteur, il n'y a pas que quand elle est relarguée pour les poissons. Ça baisse les barrages, qui sont aussi une grosse part de notre production d'électricité. Donc, il y a plein de secteurs, en particulier celui de l'agriculture, qui sont touchés par le réchauffement climatique.
Alice Débiol.
Données intéressantes, actuellement, il y a 1,6 milliard de climatiseurs dans le monde.
Pour 7 milliards d'habitants.
Et si on continue comme ça, au rythme actuel d'acquisition, on irait à plus de 5 milliards dans quelques décennies. Donc je vous laisse imaginer en termes d'émissions de gaz à effet de serre.
On va vivre dans des bulles, un peu comme sur la planète Mars.
On va vivre dans des bulles et dans une planète très très chaude.
Très très chaude.
Potentiellement inhabitable d'après les scientifiques si on dépasse un certain seuil en plus.
Et pourtant, il n'y a pas que la climatisation.
Et pourtant, il n'y a pas que la climatisation.
C'est-à-dire qu'on peut construire des maisons autrement. On a fait énormément d'efforts en France ces dernières décennies pour construire des maisons qui résistent très bien au froid. Vous arrivez dans des immeubles neufs où quand il fait froid, les gens vous disent « Moi, je consomme pratiquement rien en énergie. » Seulement en été, quand il fait très chaud, ça emmagasine la chaleur beaucoup plus qu'avant. Et donc, on a des progrès immenses à faire pour adapter, mais ça ne se fait pas évidemment sur un coup de baguette magique, ça prendra des décennies, pour adapter tout l'ensemble de notre parc immobilier, les logements, les hôpitaux, les bureaux.
C'est-à-dire que ces grandes baies vitrées, très agréables, orientées plein sud, qu'on voit dans des villas à Montpellier, il faut revenir à l'urbanisme d'antan, avec les petites rues à l'ombre, etc. Et
quand vous regardez les vieilles maisons à Montpellier, elles ont des petites fenêtres, c'est pas uniquement parce que le verre coûtait cher. Ouais. Voilà, c'est parce que ça protège mieux et du froid et du chaud.
Oui, Alice Desbiens.
Et vous insistez sur l'importance de construire les maisons différemment, mais je pense que c'est aussi important de lutter contre ce qu'on appelle les îlots de chaleur urbains.
Construire les villes.
Et donc penser notre urbanisme et l'architecture de nos villes différemment. Et pour rappel, un îlot de chaleur urbain, c'est une zone dans les villes où les températures peuvent être de 10 degrés supérieures à d'autres rues ou à quelques centaines de mètres plus loin. Et ça, c'est lié notamment au revêtement, donc le bitume sur les sols qui emmagasine la chaleur la journée, qui la relargue le soir, ce qui empêche la température de baisser la nuit, ce qui empêche le corps de récupérer. Donc voilà, il faudrait revoir
les revêtements. C'est quoi ? C'est la place Bellecour à Lyon, la place des Quinconces à Bordeaux, la dalle de la Défense, tout ça, il faut remettre une forêt, là ?
Des graviers et végétaliser.
Le Bellecour ou les Quinconces, ce n'est pas des bons exemples, parce que c'est a priori des graviers, donc les minéraux, c'est plutôt bon.
C'est bien.
C'est vraiment le béton, le problème.
Donc c'est la dalle de la Défense à Paris ?
Tout ce qui empêche l'eau, en fait, de re-rentrer dans le sol, de percoler, et donc de s'évaporer et de rafraîchir.
On voit la Défense, là, derrière. Si on la reconstruisait aujourd'hui, on la ferait totalement différemment, Anne-Laure Barral.
Ah, je pense qu'il va falloir ramener un peu de terre, oui. Un peu de vrai sol pour capter l'eau, effectivement, et pour mieux isoler et pour pas emmagasiner comme ça la chaleur.
Alors, autre conséquence de la chaleur, et expliquez-nous pourquoi, on a de la pollution qui va avec de la chaleur, de la pollution à l'ozone. Pourquoi l'ozone s'invite-t-il quand il fait chaud ?
En fait, l'ozone, donc, c'est un gaz, et donc là, on parle de l'ozone troposphérique, et il est produit selon certaines conditions météorologiques qui vont être plus favorables, et notamment en cas de stagnation de l'air et de rayonnement solaire important. Et donc, dès que les températures sont élevées, typiquement en période de canicule, là, les concentrations d'ozone vont être encore plus importantes.
Et ça rentre dans les poumons, l'ozone ?
Et donc, l'ozone, c'est un gaz qui a des effets nocifs pour le système respiratoire et qui peut avoir des conséquences aussi sur le système cardiovasculaire.
Donc, deux bonnes raisons, Gérald Kerziak, de regarder la télé et de ne pas aller faire son sport.
Il y a l'ozone, mais il y a aussi toutes les particules fines ou ultra fines. Et on sait bien qu'il y a un effet un peu de potentialisation, à la fois des effets de la canicule, des effets de la pollution. J'allais rajouter les allergies aussi, parce qu'on parle beaucoup de pollen, etc. Et finalement, c'est trois conditions qui vont faire qu'on va avoir des décompensations respiratoires cardiaques. Donc, effectivement, il vaut mieux rester devant la télévision, ne pas faire son sport, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, qu'on soit en bonne condition physique.
Éventuellement
en salle, mais enfin après ça va tuer personne de ne pas faire de sport pendant une semaine par exemple, de mettre l'organisme au repos parce qu'encore une fois la chaleur, quel que soit son état de base, la chaleur fatigue et donc il faut prendre ça en considération et il faut un certain temps d'adaptation de l'organisme. Et si on veut faire un peu d'activité physique, ça peut être marcher, mais avant le lever du soleil et après le coucher du soleil, ça veut dire qu'il va falloir qu'on change un peu nos habitudes et les pays
faire
du sud,
sieste en début d'après-midi.
Faire la sieste par exemple, nos habitudes de travail, faire la sieste, les pays du sud connaissent très bien, pas du tout le même rythme. On parlait de climatisation, on peut très bien, il y a la climatisation de confort, et puis on peut aussi avoir un petit peu moins de confort, mais avoir une activité réduite qui permet de supporter des chaleurs sans passer par la climatisation. Donc ça aussi, c'est tout ce mode de vie un peu civilisationnel qu'il va falloir revoir. Et on ne va pas mourir parce qu'il fait un peu trop chaud. On risque de mourir si on fait des bêtises, si on va courir en plein jogging au soleil, mais sinon, voilà, on va s'adapter.
Jean-Marc Vittori, quand on voit là, ces interdictions de circuler, on s'interroge beaucoup sur la voiture électrique, on se dit là que il va falloir y aller, quoi, et que de toute façon les municipalités vont finir par interdire les moteurs thermiques en centre-ville.
C'est une des voies vers lesquelles on s'oriente, qui pose toute une série de problèmes, hein, parce que la voiture électrique, pour qu'elle émette moins de CO2 qu'une voiture qui tourne à l'essence, c'est pas évident, parce que la voiture électrique, pour la produire, il faut énormément d'énergie pour extraire les métaux, pour les traiter. Pour ensuite, une batterie, ça pèse 200-300 kilos, donc c'est l'énergie en plus pour faire rouler la voiture. Ensuite, il faut que l'énergie soit produite de manière propre. On estime par exemple qu'en Chine, une Tesla pollue davantage qu'une Mercedes.
Parce que l'électricité chinoise est faite avec du
charbon.
Avec du charbon.
Voilà, donc il faut intégrer l'ensemble du cycle.
En fait, la voiture électrique, c'est bien pour la pollution en centre-ville, mais pour le bilan global de CO2,
exactement.
C'est kiff-kiff. Quoi.
Elle a même un avantage majeur, c'est qu'elle peut déplacer la pollution. Elle peut faire baisser la pollution en ville là où elle est la plus importante. Là où elle entraîne le plus de problèmes médicaux, de santé, les particules fines, avec une concentration très forte de, 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 de ces particules et déplacer ça de manière beaucoup plus parsemée à la campagne.
En fait, Anne-Laure Barral, il faut plus se déplacer. Donc, parce que le train ne fonctionne plus tellement. La voiture, ça pollue quoi qu'on en veuille. L'avion, on a bien compris que c'était épouvantable. Non, mais c'est vrai, il faut,
c'est-à-dire que si,
il faut revenir au mode du 19e ou du 18e siècle où les voyages étaient
exceptionnels.
Le cheval,
non, alors, le problème, c'est que si 9 milliards d'habitants veulent se déplacer autant qu'un Américain, un Européen, avec les modes de transport et leur modèle énergétique qu'on a aujourd'hui, oui, on va avoir un problème. Donc, pour l'instant, il y a effectivement demandé à peut-être certains qui se prennent des billets d'avion pour un week-end de 3 jours en Italie, alors que ils pourraient y aller peut-être en train ou en covoiturage. Si tout le monde fait comme ça, effectivement, tant que l'avion reste avec du kérosène, on va avoir un problème à un moment de
réchauffement. Comme nos parents qui allaient en forêt pour un pique-nique champêtre.
Il faudrait... c'est tous les goûts pour son
non, mais ça,
tout le monde.
Ça, au moins,
mais après, si on n'interroge pas les secteurs sur... aujourd'hui, il y a le boycott de l'avion auquel vous faites allusion, pour vraiment qui pose question à certains citoyens qui ont conscience de l'impact de leurs gestes. Si le secteur ne réagit pas pour proposer peut-être des alternatives et d'autres carburants, d'autres façons de fonctionner, on arrivera peut-être à un problème à un moment pour eux de perte de clients. Donc, c'est ça qui est en jeu. En fait.
Jean-Marc Vittori, vous qui êtes un habitué des cénacles internationaux de Davos, etc. On disait tout à l'heure que, et cette étude le montre, que le réchauffement est planétaire. 98% du globe est concerné par cette hausse des températures. Vous avez l'impression qu'au niveau international, on pourrait prendre une décision qui contraigne chacun d'entre nous ou que nos égoïsmes vont nous pousser à ne rien faire finalement en disant c'est aux autres d'agir.
La prise de conscience est très inégale. Vous évoquiez le forum de Davos. Il y a une dizaine d'années, il y avait eu une séance de travail avec 800 personnes au forum de Davos, 80 tables de 10 personnes, et ils devaient établir la liste des plus gros problèmes de la planète. Et donc, il y avait toute une série de choses qui étaient proposées, et il n'y avait pas le réchauffement climatique dans la liste.
Dans les 10 plus gros problèmes.
Attendez. Voilà, donc 3 heures de boulot, ensuite une synthèse, une présentation des résultats. À chacune des 80 tables prend la parole 20 secondes. Première table dit, on a mis les inégalités, l'industrie, voilà, tout
le
ça.
Terrorisme.
Et deuxième table, vous avez oublié le réchauffement climatique. Troisième table, vous avez oublié le réchauffement climatique. Et à la fin des 80 tables, le premier problème, c'était le réchauffement climatique. Donc, il y avait une prise de conscience, c'était il y a 10 ans. Et qu'est-ce qui se passe à l'échelle internationale? Les industriels, les entreprises, leurs dirigeants, leurs salariés aussi, la plupart d'entre eux, ont conscience du problème. C'est très difficile d'agir si vous n'avez pas une règle à l'échelle internationale. Parce que si vous n'avez pas une règle à l'échelle internationale, vous dites « je vais produire plus proprement », ça veut dire produire plus cher. Mais le concurrent, lui, s'il ne le fait pas, vous êtes coincé. Et donc, oui, il peut y avoir des démarches qui peuvent être faites dans des entreprises, dans des collectivités locales, à l'échelle associative. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Il y a plein de choses qui sont faites, d'ailleurs, depuis des années. Pour avancer vraiment, il faudra des formes de coordination un peu plus brutales. Et pour l'instant, on ne les voit absolument pas. Ceci dit, ça peut... on parlait de Donald Trump tout à l'heure. Ceci dit, ça peut passer par d'autres canaux. Et on voit plein de choses qui se passent actuellement, où on voit des collectivités locales, des villes, des États américains, qui ne sont pas les États-Unis dans leur ensemble, des régions chinoises, qui s'engagent ensemble. Et ça passera peut-être par des voies différentes.
Il y a 20 ans, on parlait, souvenez-vous, du trou de l'ozone. On était terrorisés. Et finalement, on a quand même eu un accord international qui fait qu'aujourd'hui, ce trou de l'ozone qui était dans l'Antarctique, a quasiment disparu. Preuve qu'on peut quand même. On a réussi sur l'ozone, sur le trou de l'ozone.
Oui, mais ça, non, vous le
direz. C'était plus simple parce que c'était sur un gaz en particulier.
Oui, mais c'était un laboratoire qui a fonctionné.
C'était sur un gaz en particulier. Et la compensation de cet accord, c'est aujourd'hui que les gaz qui ont remplacé les HFC sont des gaz à effet de serre. Donc peut-être qu'on a réduit le trou de la couche d'ozone et c'est très important, effectivement, pour les populations des plateaux andins qui risquaient des cancers de la peau, des problèmes de glaucome. Mais après, c'est la difficulté de la question environnementale, c'est vous parlez réchauffement climatique, mais après on peut parler perte de la biodiversité. Quand on dit on fait de la pêche électrique, c'est super pour le climat, on va pêcher plus vite et on utilisera moins de carburant, ce sera mieux pour le climat, mais à la fin on n'a plus d'espèces à pêcher parce que tout a été décimé par cette technique. On voit les paradoxes qu'il y a, et c'est ça qui est difficile pour les politiques aussi.
Dès qu'on bouge un paramètre.
C'est que c'est très ingrat en plus en politique de prendre une décision où vous faites des mécontents tout de suite. et vous êtes rarement remercié par quelqu'un qui vous dit « Grâce à vous et à la mesure que vous avez pris il y a 20 ans, je respire un air de bonne qualité, j'ai du poisson dans mon assiette » ou ce genre de choses.
Un petit mot, puisqu'on parlait de l'Antarctique. Monde entier connaît un réchauffement climatique, sauf l'Antarctique. Est-ce qu'on a une explication où la matière météorologique est tellement compliquée que non, on n'en a pas et on est bien content pour l'Antarctique. Alors, donc l'Antarctique est au sud, hein, le continent du
oui,
sud.
Oui, c'est l'étude de Nature ouais. qui est sortie hier, qui effectivement, elle est intéressante cette étude parce qu'elle remonte sur 2000 ans d'histoire qu'on a de climat, on dit souvent, il ne faut pas confondre météo et climat, là on vit une canicule, mais effectivement sur l'histoire des événements météorologiques, là on peut parler climat, et ils ont remonté à travers les cernes des arbres, les anneaux, vous savez, à l'intérieur des troncs, les sédiments marins, les coraux, toute l'histoire de les carottes glaciaires, toute l'histoire de nos températures. Et effectivement, il y a eu des âges où il a fait plus chaud, plus froid, mais c'était localisé. Là, ce que montre cette étude, c'est ce qu'on vit depuis le début de l'ère industrielle. C'est un réchauffement global sur l'ensemble de la planète. Et la seule zone pour l'instant où on ne voit pas totalement ça, c'est l'Antarctique. Mais voilà, on a des évolutions. Il y a des glaciologues aujourd'hui qui regardent énormément ce qui se passe en Antarctique aussi pour voir, vous savez, quand on voit
malheureusement, l'Arctique, c'est le contraire.
L'Arctique, c'est une des zones qui subit le plus le réchauffement climatique.
Alors, une des priorités du gouvernement est d'éviter la saturation des urgences. On a tous en mémoire les images de ces couloirs encombrés en 2003. Mais cette forte vague de chaleur intervient alors que 200 services d'urgence sont en grève. Voyez ce reportage de Julien Launay et David Lemarchand à Aix-en-Provence.
Fin juin, Aix-en-Provence. Premier épisode de canicule. Ce jour-là, le mercure va monter jusqu'à 38 degrés, mais pas si simple de s'en accommoder.
Et vous étiez dans des conditions de chaleur? Vous avez eu la sensation d'être exposé un peu au chaud? Vous n'étiez pas bien ou vous n'avez pas...
Je sais que j'avais l'impression de mourir de chaud.
Mourir de chaud, ouais. C'était dans l'examen, il n'y avait pas de climatisation dans la salle d'examen? C'est vous passiez les examens dans le gymnase et vous étiez vraiment...
Non, mais même avant, même dehors, j'ai l'impression de mourir de chaud.
Avec... Quand fournaise rime avec malaise, un service à l'hôpital se retrouve en première ligne, les urgences.
Principalement, ça va être des patients qui peuvent être déshydratés ou alors des coups de chaud. Donc vraiment le coup de chaud avec la personne qui va présenter une hyperthermie, l'augmentation de la température corporelle. Et qui va potentiellement dégrader ses pathologies. C'est-à-dire que si la personne a déjà des antécédents cardiaques, elle risque de se mettre en insuffisance cardiaque, de faire un œdème du poumon.
Venez, Florence, on va les afficher.
C'est bien connu, mieux vaut prévenir que guérir. Rappeler les précautions à prendre en période de canicule peut aussi permettre de limiter l'afflux de patients.
Allez. Il est nécessaire d'informer tous les patients qui viennent ou leur famille des préventions et des gestes qui sont très simples à faire pour éviter d'avoir des coups de chaud. Ici, la population est assez habituée à la chaleur, mais on sait comment il faut procéder. On ferme ses volets, on ne sort pas au moment où il fait très chaud. Mais il est important quand même de renouveler ces informations.
Allez-y, installez-vous.
Le personnel redoute le surplus d'activité à cause de la météo, car les urgences sont déjà en surchauffe. Il a rejoint le mouvement de grève initié à Paris en avril pour réclamer de meilleures conditions de travail. Ce sont les professions paramédicales, vêtues de noir, infirmiers et aides-soignants, qui mènent la fronde.
On est aux urgences, mais on est en deuil parce qu'on fait grève. On fait grève, mais en même temps, on est là au travail quand même. On est présent parce qu'on ne peut pas se permettre de ne pas y travailler parce que les urgences, il y a des patients qui arrivent, donc on peut s'occuper d'eux. Moi, j'aime mon métier, ce que je fais. J'aime beaucoup. Je le fais avec passion, mais il y a des moments, c'est dur. C'est dur parce que des fois, je sors d'ici, je ne suis pas satisfaite de mon travail, de ma journée. Il n'y a pas longtemps, on a eu une journée très difficile l'après-midi. J'avais l'impression d'avoir bâclé mon travail.
Frustration en raison du manque de moyens, qu'il s'agisse des effectifs ou du matériel jugé parfois trop vétuste. Ici, à Aix-en-Provence, la configuration des lieux est aussi un problème. Jusqu'à 170 prises en charge par jour, dans un service conçu pour en traiter 80.
Vous avez un box qui était prévu pour accueillir une seule personne et on est obligé de doubler les box. Donc vous avez deux brancards qui sont séparés par un simple paravent, ce qui fait que quand vous allez aller annoncer un diagnostic à un patient, mais il n'y a clairement pas de confidentialité.
La promiscuité est d'autant plus difficile à gérer que les malades peuvent s'impatienter.
Des fois, on a l'impression d'être oublié. Enfin, moi, je ne le fais pas, mais j'entends des personnes, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et puis, on n'a pas de nouvelles. Donc, on a envie de demander qu'est-ce qui se passe, où ça en est.
Pour moi, c'est difficile à entendre parce que j'ai l'impression que le soin n'est pas à la hauteur de ce que je voudrais qu'il soit. Même si la prise en charge médicale, elle va être faite, et elle va être faite selon les règles de bonne pratique, la prise en charge du patient dans sa globalité, elle n'est pas celle que je voudrais qu'il soit. Parce qu'on sent nettement qu'on a une patiente qui n'a pas une qualité de prise en charge optimale.
Malgré sa promesse de débloquer 70 millions d'euros, la ministre de la Santé n'a pas réussi à apaiser la colère. Aux urgences, cette grogne devrait s'exprimer durant tout l'été, avec une journée d'action envisagée à la rentrée.
Alors, question téléspectateur, quels sont les types de risques fatals en période de canicule ? Comment se protéger ? Docteur Kerziak, on peut mourir de chaud ?
Oui, on peut mourir de chaud et on meurt de chaud, j'allais dire quasiment plus que de froid. Là, il y a un sans domicile fixe qui a été retrouvé mort. On ne sait pas encore si c'est lié à la chaleur, mais très probablement, parce qu'on parle beaucoup des sans domicile fixe l'hiver, mais l'été, c'est extrêmement compliqué aussi dans la rue. Donc, on peut mourir d'une hyperthermie, d'un coup de chaleur, qui est un coup de chaleur, je parlais d'exercice, c'est le jogger ou c'est le travailleur du BTP.
Quels sont les organes qui craquent ?
Ah ben, c'est une augmentation de la température et à un moment donné, l'organisme ne peut plus réguler 40, 41, 42 degrés de température corporelle. On n'est pas fait, l'organisme ne peut plus réguler et le système va s'emballer un peu comme un choc infectieux. C'est exactement le même mécanisme qu'un choc infectieux. D'ailleurs, en 2003, moi je me rappelle très bien, les patients qui arrivaient, on pensait à des infections au départ. On pensait que c'était une infection, on faisait tous les marqueurs, les prises de sang biologiques, il n'y avait pas d'infection et ils étaient à 42 degrés de température. Et au passage, quand on a une hyperthermie comme ça liée au chaud, ça ne sert à rien de prendre du doliprane, de l'efferalgan ou de l'aspirine. Ça peut même avoir l'effet inverse, donc il ne faut pas en prendre parce que ça ne diminue pas la température. Et donc le coup de chaud, c'est quand on est exposé à des températures extrême et le système va se déréguler. Ça, c'est la première cause de décès.
Donc, les symptômes, parce que du coup, vous dites tellement de choses passionnantes. Le symptôme, en fait, c'est qu'on a chaud et on se sent...
La température augmente, corporelle, on peut prendre sa température, on commence à avoir des crampes, qui est un signe, là aussi, de déshydratation, un trouble neurologique, on commence à divaguer un peu.
Donc, on a 41 de fièvre, quoi.
Oui, on a 41 de fièvre, la personne commence à divaguer, à tenir des propos complètement incohérents. Au bout d'un moment, il n'y a même plus de sueur, parce que l'organisme garde toute l'eau qu'il y a dans l'organisme, donc la personne ne sue plus, la température augmente et après on est dans un système qui va s'emballer. Ça, c'est le coup de chaleur avec un contexte favorisant. Quelqu'un qui est retrouvé dehors, quelqu'un qui faisait de l'exercice, quelqu'un qui travaillait dehors. Là, il faut vite le refroidir, mettre des draps.
Alors, un coup de chaleur, on tombe dans les pommes ?
Non, alors il va y avoir des malaises, c'est-à-dire que vous allez avoir ces troubles neurologiques, des troubles de la parole, puis tomber dans les pommes, éventuellement être dans le coma. Et donc là, il faut rapidement alerter les secours, le 15, le 18, refroidir, c'est-à-dire déshabiller, essayer de l'hydrater si la personne peut encore boire. Si elle ne peut plus boire, il va falloir donner un peu des linges mouillés. Parce que si elle n'arrive plus à boire, vous risquez, au lieu de passer dans le bon trou, c'est-à-dire dans l'œsophage, ça va passer dans les poumons. Vous allez aggraver la situation. D'accord. Et puis, si elle est inconsciente, la mettre en position latérale de sécurité et refroidir par l'extérieur. Ça, c'est le coup de chaleur. Et puis
c'est assez effrayant ce que vous dites. Ça arrive plus que de mourir de froid maintenant. Oui, et ça va arriver de plus en plus.
Ça arrive plus que de mourir de froid. Et vous avez des gens qui, malgré les conseils qui sont donnés, qui est de dire ne faites pas d'exercice, vont aller faire un tour de vélo, vont aller faire un jogging. Et c'est vraiment des personnes très à risque alors qu'elles sont en pleine santé. Et c'est plutôt des individus jeunes. Hein. C'est plutôt des gens qui ne sont pas du tout dans les facteurs de risque, dans les critères de risque, ni des jeunes, ni des très jeunes, c'est-à-dire des enfants, ni des personnes âgées. C'est vraiment des gens en pleine force de l'âge, malheureusement. Et puis l'autre type, le collègue en parlait dans le reportage, c'est des personnes qui ont une insuffisance cardiaque ou une insuffisance respiratoire, un diabète, une maladie cardiaque qui va décompenser. C'est-à-dire que le corps ne va plus pouvoir s'habituer. Les traitements, qui sont des traitements chroniques, sont bien supportés, mais vont permettre au cœur, malheureusement, ne vont pas permettre au cœur de s'adapter, d'accélérer leur rythme cardiaque, par exemple. Et là, vous avez la déshydratation, par exemple, qui va arriver, ou le cœur qui ne peut pas s'adapter. Et donc, vous allez avoir quelqu'un qui est essoufflé, qui va avoir des œdèmes, qui va avoir du mal à transpirer. La transpiration, c'est un mécanisme de régulation de la température.
Donc, il ne faut pas s'enlever la sueur. Au contraire, elle est là
La transpiration, elle permet effectivement de diminuer la température.
C'est bon signe.
C'est plutôt bon signe. D'où l'intérêt de s'hydrater en buvant de l'eau, pas trop. Mais donc, ça veut dire que ce n'est pas 3 litres ou 4 litres par jour, mais c'est 2 litres par jour, par petite quantité.
Alors, on dit, et plus on est âgé, moins on a la sensation de soif.
Oui, et puis il ne faut pas attendre d'avoir soif, surtout.
Faut pas attendre d'avoir
soif. Dans les conseils de prévention, il ne faut pas attendre d'avoir soif, parce que souvent, quand vous avez soif, c'est que c'est un peu trop tard, c'est que vous êtes déjà déshydraté. Et puis, pour les personnes âgées, il faut surtout tous hydratés de l'extérieur. Des linges mouillés, des gants de toilette un peu mouillés, des ventilateurs qui vont permettre là aussi d'hydrater, d'apporter par convection un peu d'air frais et diminuer la température.
Alors Alice Debiol, j'imagine que vous avez les mêmes préconisations.
Oui, complètement. Et
Sinon, surboire, par exemple, est-ce qu'il faut boire très frais? Parce que ça réchauffe le...
Non, une eau à température
risque le choc thermique, par moment, on hésite.
Voilà,
on
vaut mieux boire une eau à température ambiante. Et tout à l'heure, vous demandiez si le froid tuait plus ou moins que le chaud. Il faut savoir en fait qu'en France, les événements météorologiques extrêmes les plus meurtriers, ce sont les canicules. Et depuis 2015, où on a observé une canicule, des épisodes de canicule chaque été, c'est déjà plus de 4000 décès en excès qui ont été observés. Et c'est aussi ce qu'on voit dans le reportage que vous avez montré. Ça entraîne un recours supplémentaire aux soins de la part de la population. Depuis 2015, c'est 63 000 passages supplémentaires aux urgences liés à la chaleur qui ont été
On a un bilan bien inférieur là aujourd'hui. Alors
moi, je vous parle depuis 2015 en cumulé.
Depuis le début de cette, on compte 5 décès, 27 urgences absolues, 371 urgences relatives imputées à la canicule depuis le début là de mois de juin.
Ouais, et moi, je remonte à 2015. Et donc en cumulé, c'était plus de 15 000 aussi consultations aux urgences. Et la canicule de 2003, pour rappel, qui est une canicule qui a duré très longtemps, plus de 19 jours, elle a fait rien qu'en France 15 000 décès et 70 000 en Europe.
Sur les conseils de vous, les spécialistes de la santé, pour éviter d'en arriver là, donc boire sans attendre d'avoir soif, ne pas boire très chaud, avant de se coucher, une douche glacée, une douche à tout, pas de douche, un bain glacé,
une douche tiède.
Pas trop de boissons. Après 2003, on a vu un phénomène qui était le phénomène inverse et on voyait des affiches hyponatrémie. Hyponatrémie, c'est quoi? C'est l'organisme qui va se noyer de l'intérieur, qui va être dilué. Si vous buvez 5 litres par jour, par exemple, et il y a des personnes âgées qui, après 2003, buvaient. Et donc, il faut quantifier ce qu'on prend. Parce que 2 litres, ça paraît bien, surtout qu'avec l'alimentation, les melons, les pastèques, on va avoir aussi un apport d'eau, qui est un apport d'eau indirect, hein, qui n'est pas la boisson, mais qui est par l'alimentation. Et donc, si on boit trop de boissons, 5 litres, 6 litres, vous risquez de diluer le sel qui est à l'intérieur de l'organisme. Et ça donne une hyponatrémie. D'accord. Et on avait paradoxalement plus de décès en 2004-2005 liés à des œdèmes du cerveau, parce que quand c'est dilué, ça va faire gonfler le cerveau, des comas chez des personnes âgées qui avaient trop bien suivi les conseils canicules. Et donc là, on est sur des conseils de modération. Une ou deux douches tièdes, boire à température ambiante, 2 litres d'eau par jour.
Melon pastèque en alimentation. Vous avez, alors on va éviter le truc chaud, le steak chaud. On va plutôt...
Oui, on va éviter des grosses rations caloriques, parce qu'on n'en a pas forcément besoin. D'ailleurs, on a moins faim et
c'est plutôt
naturel. C'est la modération alimentaire aussi. En plus, pour la planète, c'est plutôt pas mal de manger moins de viande et moins de poisson et plutôt des fruits, des légumes, des choses qui sont des produits de saison et qui vont apporter aussi de l'eau. Et ça, c'est extrêmement important pour hydrater l'organisme.
Bien s'alimenter quand même.
Oui, du gazpacho, par exemple. Et on a vu les services d'urgence en flux tendu aussi. Si jamais on était dans une situation comme en 2003, je crains que la situation ne soit pire qu'en 2003 pour la simple et bonne raison qu'il y a encore des services qui ont fermé, des hôpitaux qui ont fermé et qu'on est avec 200 services d'urgence en grève. Ça veut dire que, heureusement que le gouvernement communique, fait de la prévention, fait de la communication, parce que c'est le dernier rempart. Et si ce rempart, si ces digues lâchaient et que les gens se retrouvaient aux urgences, on est encore moins en capacité qu'en 2003 d'absorber ces patients aux urgences. D'ailleurs, parce que les services sont en grève et surtout parce que les petits hôpitaux ont encore fermé depuis 2003, malheureusement.
Juste un petit point là-dessus. Par rapport à 2003, il y a eu d'énormes progrès. C'est-à-dire que le gouvernement communique. 2003, le ministre était en vacances, il n'y avait aucune communication officielle là-dessus. Le grand débat dans les médias, vous vous souvenez ce que c'était en 2003? C'est « il fait chaud, mais que fait le gouvernement ?» Donc on a même eu là, on a tiré les enseignements de ce qui s'est passé en 2003, et il y a de gros efforts pour que ça se passe mieux.
Bien sûr, pas que cette année, tous les gouvernements, nous on l'a vu très clairement dans les hôpitaux, c'est-à-dire que la prévention, parce que le problème, ce n'est pas un problème d'hôpital ou d'urgence, c'est un problème d'amont, c'est-à-dire dans les établissements d'hospitalisation des personnes âgées, les maisons de retraite, la prévention à domicile, la solidarité, passer des coups de fil. Les mairies ont fait beaucoup avec les services sociaux pour organiser cette solidarité, et quand il y a des listes, vous savez, de personnes qui sont seules, de façon à ce que les mairies, en cas de déclenchement du plan canicule, puissent appeler ces personnes seules pour éviter qu'elles ne se retrouvent aux urgences. Donc les gouvernements successifs ont tiré les leçons. Après, à la décharge du ministre à l'époque, Jean-François Mattéi, en 2003, il ne pouvait pas l'inventer. C'est-à-dire que c'est arrivé comme ça, on ne pouvait pas anticiper. Là, on a malheureusement l'expérience et on a anticipé. Après, la question, c'est que si jamais ça débordait dans les EHPAD et si la prévention ne marchait pas, malheureusement, je crains que les hôpitaux ne soient pas mieux
préparés. Et d'ailleurs, votre collègue de l'hôpital Pompidou a dit « S'il vous plaît, de grâce, ne venez pas encombrer les urgences si vous avez un petit bobo qui peut attendre. » Alors, le réchauffement climatique a des conséquences jusque sur les plages de Bretagne, puisque le phénomène des algues vertes qui avait tendance à diminuer, eh bien, on a observé de nouveaux échouages qui se sont produits ces dernières semaines sur les côtes d'Armor. Beaucoup l'expliquent par l'augmentation des températures. Reportage dans la baie de Saint-Brieuc de Mélanie Nunes et Maxime Liogier.
Quand ça bip, il faut s'en aller. Ça veut dire qu'on est au-dessus de 25 ppm. C'est dangereux.
Dans cette croûte blanche, des algues en putréfaction qui dégagent une odeur nauséabonde et un gaz toxique, dangereux, l'hydrogène sulfuré, potentiellement mortel à très haute dose.
Les algues vertes tuent. Petits poissons, crevettes, tout ça, ça a disparu. La plage est abandonnée, la plage est désertée, la plage est complètement asphyxiée. Moi, c'est plus avec un parasol ou une tente de plage que je descends à la plage de la Grand-Ville. C'est bien malheureux, parce que quand j'ai construit mon bungalow en 68, c'est parce que j'avais l'espoir à la retraite de pouvoir aller à la pêche.
Des algues vertes qui pullulent sous le soleil et la chaleur. Un hiver doux et un été précoce ont favorisé cette année leur prolifération.
Elles sont arrivées avant. Elles sont arrivées au mois de mars, les algues vertes. Un mois et demi en avance. D'habitude, au 1er avril, on dessinait un poisson d'avril sur la plage pour dire « Oui, bien, il n'y a pas d'algues vertes ». Là, on ne pouvait plus le dessiner. 15 jours avant le 1er avril, il y avait des algues vertes.
Depuis 2009, deux plans de lutte contre les algues ont été adoptés. 137 millions d'euros au total. Mais le réchauffement climatique pourrait avoir empiré la situation. À perte de vue, ces amas verts, des algues, qui recouvrent aujourd'hui 500 hectares, deux fois plus que l'année dernière. Une situation préoccupante pour les élus. À Lamballe, commune située le long de la baie, la plage a été fermée en catastrophe.
On n'a pas trop fait attention. L'année dernière, ça s'est bien passé, beaucoup moins d'algues vertes, donc on s'est dit, ça marche bien, on fait comme d'habitude. Sauf que cette année, en début d'année, il y a eu un pic. On ne peut pas se permettre de prendre des risques par rapport à ça, quelles que soient les conséquences qu'il puisse y avoir sur les retombées touristiques ou économiques.
Des algues qui doivent impérativement être ramassées, traitées en moins de 24 heures pour éviter l'intoxication.
Quand tu te rapproches, tu la sens. Hein, avec la chaleur. Elle blanchit vite et quand elle est blanche, c'est quand elle est blanche qu'elle est dangereuse.
Des algues qui se nourrissent de nitrates présents dans les déjections des animaux d'élevage de la région. Et ces nitrates finissent dans la baie.
Les taux de nitrates ont baissé dans nos rivières. Le flux d'azote arrivant dans cette baie a diminué. On a pratiquement diminué de 50% les flux d'azote par rapport aux années 2000. Mais ce n'est pas suffisant et on voit avec le résultat derrière moi que ce n'est pas suffisant. Quoi.
Pas suffisant car les fortes chaleurs ont fait pulluler ces algues. À quelques kilomètres du littoral empoisonné, la seule usine de traitement des algues de la région. L'entreprise a dû fermer 15 jours début juillet, submergée d'algues vertes. En un mois, près de 8000 tonnes ont été réceptionnées ici, une quantité qu'elle recevait d'habitude sur 6 mois. Les taux d'hydrogène sulfuré ont atteint des seuils préoccupants.
Et c'est dans ce bassin-là qu'on a eu des soucis sur l'usine puisque ça a commencé à sentir très mauvais. Quand on mesure au niveau du bassin ce qui en ressort, on s'aperçoit qu'il y a de l'hydrogène sulfuré qui se dégage à l'intérieur de cette fosse. Là, on est monté à 9. Donc 9, c'est pas très dangereux. Bien sûr, il ne faut pas rester très longtemps respirer à 9 ppm, mais on a vu des moments où ça montait à plus de 100 ppm. 100 ppm, il faut bien sûr évacuer. Hein.
Une marée verte qui pourrait représenter 100 000 tonnes d'algues à la fin de la saison. Un fléau breton mortel. La justice a établi le lien entre la mort d'un ramasseur d'algues vertes et cette plante. Mais d'autres cas de décès inexpliqués pourraient eux aussi être en rapport avec ces végétaux.
Alors, Alice Débiol, c'est quoi? C'est les nitrates ou c'est la chaleur qui fait qu'il y a ces algues vertes?
Oui, c'est un petit peu tout. C'est ce qu'on appelle l'eutrophisation de l'eau. Donc, c'est un déséquilibre du milieu aquatique qui est lié à l'augmentation des températures, à l'augmentation des concentrations de nitrates, de phosphore, d'azote. Et donc ça va favoriser la prolifération de nutriments qui donc sont favorables à des algues, comme les algues vertes.
Et qui émanent des gaz toxiques, alors?
Et les algues...
L'hydrogène sulfuré.
Bien sûr, mais ce qu'on voit aussi, c'est ça se trouve aussi dans les eaux douces, c'est les algues bleues qui, elles, vont favoriser la prolifération l'aspersion de cyanobactéries. Et donc là, actuellement, c'est à Marmande, la baignade dans la Garonne est interdite du fait de la présence de ces algues bleues.
Alors, Jean-Marc Vittori, on accuse les agriculteurs de déverser, enfin d'être à l'origine de ces nitrates. Qui paye pour... Est-ce qu'on applique le principe du pollueur-payeur? Voilà, je vais poser ma question de façon plus simple.
À ma connaissance, non.
Non.
À ma connaissance, non. Hein. Les collectivités locales dépensent beaucoup d'argent pour évacuer ces algues vertes. On l'a vu un peu dans le reportage. Et ensuite, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Alors, pendant très longtemps, il y a eu une polémique. Hein. On disait, on ne sait pas vraiment ce qui se passe, etc. Maintenant, on sait de manière claire que... il y a la chaleur qui provoque, qui fait prospérer ces algues, mais ces algues sont très gourmandes en nitrates et donc elles
prennent terre avec les nitrates.
Donc c'est l'élevage intensif et c'est aussi les engrais. Hein. Voilà.
Mais on voit que c'est tout notre mode de vie hein, qui provoque toutes ces catastrophes.
Et donc derrière, il y a évidemment des gros enjeux économiques des agriculteurs, des éleveurs, des céréaliers. Et jusqu'à présent, alors il y a eu des actions qui ont été faites, hein, diminution de moitié des arrivées de nitrates, c'est quelque chose de tout à fait spectaculaire, mais le malheur c'est que ces algues, il faut les sevrer complètement de nitrates. Et donc réduire la quantité de nitrates de moitié, ça ne règle absolument pas le problème.
Anne-Laure Barral, est-ce que l'autre danger qui nous guette, c'est la pollution de l'eau, des océans? On dit d'ailleurs qu'ils vont être plus acides. Est-ce que demain, on ne pourra pas aller sur la plage parce qu'il y fera trop chaud et parce que l'eau y sera trop polluée? Alors, c'est un peu apocalyptique ce que je dis, mais...
Non, il y a des endroits où ça se passe bien, on va dire. Mais effectivement, nos impacts sur l'environnement, à un moment, il ne faut pas croire que c'est un problème que pour les grenouilles et les poissons. Hein. Ça se retourne aussi contre nous et nos modes de vie, en fait. Mais là, c'est effectivement les apports de nitrates dans des eaux de ruissellement, dans des baies peu profondes, sablonneuses. Il fait beau, il fait chaud et le phénomène se produit. Avec la marée, elle nous laisse les algues sur la plage. Et donc, comme le tourisme en Bretagne est très important aussi, il ne pouvait pas fermer toutes ces plages aux touristes qui venaient. Donc on a cette solution. À la fois, on a demandé aux agriculteurs de faire un effort, de créer des méthaniseurs pour ne pas rejeter les lisiers dans les champs et de ramasser les algues. Mais on voit que certaines années, la plateforme qui a été créée pour récupérer ces algues, elle n'y arrive plus. Quoi. Donc, ouais. Dans d'autres régions, ça va être, je crois qu'à Étretat aujourd'hui, c'est la station d'épuration qui a eu un incident. Et donc là, c'est plutôt les bactéries dans l'eau qui posent problème pour les baigneurs comme sur Marmande. En Méditerranée, on parle de la pollution plastique. Alors peut-être qu'elle, elle nous tue pas quand on se baigne, hein, on va dire, mais elle n'est pas agréable non plus pour le tourisme et pour l'environnement,
donc,
pour la beauté des paysages.
Ça va terminer dans des villas climatisées ou dans les appartements climatisés avec des piscines en sous-sol. Ça va être ça, les vacances.
Par des efforts collectifs pour pas jeter les déchets n'importe où, avoir des stations de traitement plutôt que de les mettre dans des décharges à ciel ouvert au bord de la Méditerranée. Il y a plein de solutions, y compris pour le monde économique, dans la préservation de l'environnement. Enfin, c'est pas forcément...
Alors, la Bretagne fait souvent office de refuge. Les rares départements qui ne sont pas en alerte, ce sont ceux qui sont dans le pourtour breton. Il est clair qu'aujourd'hui, c'est une dernière petite question, mais si on veut acheter une maison pour ses vieux jours, pour sa retraite, pour ses enfants, il vaut mieux l'acheter où, dans le Finistère ou à Sifour dans le Var?
Il y a un rapport de l'Observatoire des impacts du changement climatique en France qui a été fait déjà il y a quelques années et qui montrait qu'effectivement le tourisme au nord de la France allait bénéficier en fait de l'évolution du climat. Certaines cultures aussi vont plus pousser avec plus de CO2 dans l'air. Et voilà, donc on ne va pas souhaiter non plus que les températures s'emballent parce que ça va être beaucoup plus dur pour des pays plus pauvres qui n'ont pas de système d'assurance comme les nôtres, qui n'ont pas les moyens de construire des digues pour se protéger de la montée de la mer. Mais effectivement, il peut y avoir aussi des externalités, on va dire, bénéfiques un petit peu pour ponctuellement certains secteurs. Et le secteur, oui, du nord de la France, de l'attirage, de l'Aisne, de la Picardie, va connaître peut-être un boom touristique.
Un secteur touristique qui s'interroge sérieusement sur son avenir, c'est le ski, hein, j'imagine.
Les stations, évidemment. Évidemment, quand on regarde les perspectives à 50 ans, toutes les stations qui sont de moyenne altitude sont... pratiquement condamné.
D'ailleurs, ils ne disent plus que ce sont des stations de ski, mais des stations de sport d'hiver. On y fait autre chose,
oui,
on fait des balades, etc.
Comme quoi, l'adaptation, là aussi, est en cours.
Très bien. Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Ben voilà. D'ici la fin du siècle, verra-t-on des villes souterraines?
Ça pose la question de notre
bâti. On est mieux aujourd'hui dans les centres commerciaux.
Alors moi, j'avais pensé aux maisons troglodytes que les centres commerciaux, mais effectivement, parce qu'on n'habite pas un centre commercial en général. Mais effectivement, ça pose la question de notre bâti, parce qu'on disait, voilà, les climatiseurs, on peut tous s'équiper de climatiseurs, on va avoir une plus grosse consommation d'énergie et donc aggraver un petit peu la situation. C'est une solution de court terme à long terme. Si on pense au long terme, il y a plutôt rénover nos bâtiments. Est-ce que les toits en tôle, c'est une bonne idée? Est-ce qu'il faut passer sur des villes avec des minéraux plutôt que du bitume, plus végétalisé, avoir un effet comme, vous savez, en Grèce, ces villages où les maisons sont toutes blanches. Alors après, il y a la réverbération pour les yeux, mais ça peut être une façon aussi de revoir un peu nos maisons et nos bâtis. Et ça, c'est des activités économiques en France, donc ce n'est pas non plus quelque chose de négatif, forcément.
C'est accepter aussi de laisser un peu notre confort. C'est accepter aussi des températures qui vont augmenter. L'être humain est bien fait et il va notre organisme, de toute façon, va s'adapter.
Donc vous croyez qu'en un temps aussi court, on peut s'adapter? Parce que l'évolution est quand même...
On le voit très bien. Il fait chaud, c'est pas très agréable. On va, encore une fois, adapter notre mode de vie, mais notre organisme...
Plus de cravate, d'ailleurs, le vendredi. Ça va être plus de cravate la semaine.
Mais notre organisme va s'habituer de toute façon. La seule chose, c'est qu'il faut qu'on lâche un peu sur notre confort et qu'individuellement, on prenne conscience. Tout à l'heure, je disais, il faut pas manger de viande, par exemple, ou en tout cas, moins manger de viande. C'est bon à la fois pour sa santé, à la fois pour son confort digestif quand il fait chaud, et c'est bon pour la planète. C'est-à-dire que de passer d'un cercle vicieux, on va finalement arriver à un cercle vertueux individuellement et collectivement.
Il faut savoir que les solutions coûtent moins cher pour lutter et s'adapter au réchauffement climatique que si on ne fait rien.
On a trop attendu, trop tergiversé, que d'erreurs en matière d'urbanisme. Peut-on encore réparer ce qui a été mal fait? Il y a un article là, sur la ville de Bordeaux, il disait ils ont coupé tous les arbres, ils ont mis en valeur les pierres. Les pierres, c'est très joli, mais il faudrait replanter les arbres. Alors Barral, on va réinviter la forêt un petit peu dans nos centres-villes. Où est-ce que ces grandes villes vont devenir invivables et ce sont nous qui allons les quitter pour aller en Auvergne ou dans le Finistère en faisant du télétravail?
Alors petit à petit, je pense que c'est ce que les familles font, de quitter les grandes villes d'abord pour des questions de loyer, on va dire, et de coûts.
Première raison.
Et après, effectivement, les jeunes actifs qui sont intéressés par les centres nationaux comme Paris, mais régionaux aussi, hein, comme Lyon, Bordeaux, où l'activité est plus importante, est-ce qu'ils vont préférer aujourd'hui aller s'installer à la campagne et en télétravail? Je pense que le luxe, effectivement, aujourd'hui, est de vivre à côté de son lieu de travail et de pouvoir y aller à pied, par exemple. Parce que là, on n'a pas on n'est pas dépendant des transports, de la voiture, des conditions météo et de ses impacts.
Jean-Marc Victory, on a l'impression qu'aujourd'hui, là, ces grandes métropoles ont gagné la bataille. Attention, hein, les questions environnementales peuvent redistribuer les cartes et on ne sait pas très bien où on travaillera dans une génération et comment on travaillera.
Tout à fait. On allait très loin dans la bétonisation, dans la minéralisation de la ville. Mais clairement, il y a toute une série de signes qui indiquent déjà qu'on rebascule un peu dans l'autre sens. Dans Paris, on a vu des îlots construits qui ont été détruits, où il y a des squats.
La défense, juste à côté, c'était un extrême.
Oui, ça, ce fut un extrême. J'ai visité hier du côté de Saint-Ouen. C'est une ville qui est en chantier complet. Vous voyez des jeunes arbres partout. Et je pense que si on avait construit ça il y a 20 ans ou 30 ans, on n'aurait pas mis ces arbres. Donc la bascule se fait, elle se fait lentement. Le problème, c'est que ça prend beaucoup de temps et que là où c'est bétonné, c'est difficile de repasser. On voit à nouveau la dalle de la Défense. Ça va être difficile de mettre de la terre sur la dalle de la Défense. Hein, pour qu'un arbre pousse vraiment, il ne faut pas 30 cm de terre, il en faut beaucoup plus. Donc ça va être un tout petit peu compliqué.
En sous-sol. Quelle température maximum un être humain peut-il supporter ? Alors déjà, c'est vrai que dans les thermomètres, ça s'arrête à 45, je crois.
Ah non, mais 45 degrés, vous mourrez à 45 degrés. C'est-à-dire, globalement, c'est 40,5, 41 degrés. Au-delà de 41 degrés, c'est un phénomène qui va s'envoler. C'est l'hypothalamus, qui est une petite glande à la base du cerveau qui régule. Et au-delà de 41 degrés, il est incapable de réguler.
Alors justement, la question, c'était peut-être dans quel environnement, je veux dire. Si il fait 60 degrés à l'extérieur, voilà.
Après, tout dépend les capacités d'adaptation.
Est-ce qu'on peut vivre à 80
degrés? Je réponds ça parce que tout dépend les capacités d'adaptation de notre organisme à nous. L'homme, l'être humain, a une température autour de 37. On doit varier autour de 37, ce qu'on appelle l'homéostasie. Et autour de 37, on voit bien quand on a de la fièvre ou quand il y a une hyperthermie, on va monter. Tant que l'organisme arrive à compenser et à rester en dessous de 41 degrés, c'est vivable. C'est clair que s'il fait 65 degrés et qu'on est exposé longtemps à ces 65 degrés, puisqu'il va y avoir un problème de temps d'exposition, on va mourir relativement rapidement d'un coup de chaleur parce qu'encore une fois, c'est l'organisme qui va être incapable de ramener à une température normale. Mais au-delà, j'irais 60-65 degrés sur des périodes courtes, ça ne pose pas de problème. Sur des périodes plus longues, et quand je parle de périodes plus longues, c'est des histoires de dizaines de minutes ou d'heures. C'est-à-dire que c'est là où ça va poser problème.
Une température interne à 41 degrés, on ne tient pas très longtemps non plus.
Bien sûr.
De grandes figures lancent l'alerte du réchauffement climatique. Mais pourquoi est-ce si difficile à entendre, Anne-Laure Barral?
Alors, je pense que c'est parce que c'est très...
D'abord, c'est très angoissant. Hein.
Enfin, pour certains, chacun réagit différemment, on va dire. Il y a ceux qui, ça éveille leur conscience, et puis il y a ceux à qui ça fait peur et qui préfèrent ne pas entendre le message. Je crois qu'il y a des psychologues qui ont très bien étudié le phénomène sur pourquoi on écoute l'alerte ou pas. Mais je pense que pourquoi on n'agit pas, parce que notamment en politique, c'est très ingrat comme sujet. C'est des choses de très long terme. Et le secteur économique, le secteur industriel avait une vision parfois de plus long terme que le politique, en disant que je vois l'avenir de mon secteur, de mon entreprise dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Je pense que voilà, Total a investi dans le solaire alors que c'était le numéro 1 du pétrole il y a 10 ans. Il est devenu numéro 1 du solaire, puis il l'a revendu parce que après aujourd'hui, on voit aussi dans le monde économique le côté très court terme de la rentabilité de certaines choses et donc plus cette vision de long terme. Donc il y a ça, il y a parfois des acteurs économiques qu'on ait très bonne vision de long terme de comment il faut investir pour changer le monde de plus chaud, on
et
va
après,
dire.
Il y a la question du dividende.
Et puis il y a la question
trimestre.
De certains qui freinent surtout la décision qui les emmènerait vers moins de rentabilité tout de suite. Donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on a du mal à l'entendre. Je pense qu'il y a beaucoup de citoyens qui l'entendent. Quand on voit le succès des associations pour le maintien de l'agriculture paysanne, les circuits courts aujourd'hui, toute la grande distribution à ce mot-là à la bouche, il y a vraiment le monde agricole a des reconversions. Ces 10 dernières années, très importantes.
Des gens courent en plein après-midi, des ados jouent au foot, on sort des petits-enfants sous le soleil, que faire contre l'irresponsabilité? Alice Desbioles, quand vous, par moment, il y a des scènes qui vous mettent hors de vous et vous avez envie d'interpeller les parents ou pas?
Oui, c'est vrai que parfois.
Oui.
Mais que faire? On peut pas. Moi, je pense qu'il faut informer. Et après, voilà, on ne va pas forcer les gens. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... À part informer.
Oui, puis c'est un phénomène qui est nouveau. C'est un phénomène de. Les gens ne savent pas. Enfin, on n'est pas habitué à cette température-là. Donc, il va falloir s'habituer. Puis, progressivement, on va modifier un peu nos habitudes, à la fois de travail, nos habitudes de vie. Et puis, il faut informer, effectivement. Ce que là, pour le coup, les autorités publiques font très bien. Santé publique France fait très bien avec des campagnes d'information. Les médias également qui relayent avec des spots, ces niveaux de canicule. Et puis, après, il y aura toujours des gens, malheureusement, irresponsables.
Pour se nourrir dans le futur, a-t-on des céréales de substitution pour le maïs, le blé, etc., moins consommatrices d'eau. L'embarras, il paraît qu'il va falloir qu'on réapprenne à se réapproprier les légumes d'hiver, que manger les topinambours, toutes ces choses-là. Maintenant, on veut des tomates en plein hiver. Les tomates, on a oublié que c'était d'été.
Oui, moi, je voudrais des tomates qui ont du goût, en fait. Donc, s'il faut attendre l'été pour les avoir, pourquoi pas si l'hiver, il y a d'autres choses. En fait, ce qui est intéressant, quand vous penchez sur la question, c'est qu'il y a des études de l'INRA aujourd'hui qui montrent tous les légumes et les fruits qu'on a oubliés parce qu'ils ne supportaient pas, par exemple, le transport, parce qu'on ne pouvait pas les produire aux quatre coins de la planète pour les envoyer à l'autre bout assez rapidement. Et donc, pourquoi c'est intéressant le circuit court? C'est parce qu'effectivement, peut-être que vous allez aller dans une région à un moment et vous ne mangerez des framboises que de cette région, à cet endroit-là. Et il y en aura à profusion. Mais vous ne pourrez pas les manger chez vous en rentrant peut-être dans le sud de la France ou à Paris parce qu'elles ne supportent pas le transport, ces framboises. Donc, il y a toute une diversité.
La courgette, on est persuadé. En hiver, on ne peut pas avoir de courgette.
Non. Mais moi, alors, le melon, l'hiver, par exemple, ça me paraît inconcevable.
Ça,
mais
c'est connu.
Chacun ses goûts, on va dire. Mais effectivement, peut-être que dans de nouveaux des légumes ou des fruits oubliés parce qu'ils ne répondaient pas aux critères de la standardisation de notre consommation, on va retrouver aussi du plaisir gustatif, moi, je pense.
Ce qui sera meilleur pour notre santé, c'est ça l'intérêt. C'est le cercle vertueux avec des vitamines, des minéraux, avec des légumes colorés parce que de saison et parce que fait localement.
Exactement, vous parliez de Santé publique France. En fait, c'est leurs dernières recommandations qui sont sorties en début d'année qui recommandent de privilégier les produits bio, les produits locaux, de saison et idéalement produits par des producteurs, puisqu'il y a une meilleure qualité nutritionnelle, il y a plus de vitamines et plus de nutriments que dans les produits dits conventionnels. Donc c'est même meilleur pour la santé.
En plus cher.
si on consomme un petit peu moins de viande, un petit peu moins de poisson, des aliments moins de soda ou de jus de fruits ou des produits en fait, qui sont inutiles, il y a des études qui montrent qu'on peut avoir un panier équivalent en termes de coûts en modifiant certaines habitudes d'achat.
Une solution économique ne consisterait-elle pas à peindre en blanc les surfaces bétonnées et les toits en tuiles ou en ardoise pour réfléchir la lumière du soleil?
Ça fait partie des solutions hein, pour lutter contre l'isolation.
On parlait des villages grecs tout à l'heure.
Exactement.
Mais voilà. Cette mode des voitures noires, là, elle est très, très mauvaise parce que ça emmagasine la chaleur.
Évidemment.
Pourquoi n'arrête-t-on pas le Tour de France? Alors, Gérald Kierzek, il se trouve qu'aujourd'hui, ils sont dans les Alpes, donc ça va, il ne fait pas 40 degrés, mais c'est vrai que... D'ailleurs, il va y avoir le prochain mondial de football qui va se passer au Qatar. Tous ces sportifs qu'on
dans
fait jouer...
Dans des stades climatisés, oui. Ce qui pose un problème environnemental, pour pouvoir avoir une température correcte pour que les sportifs...
Non, mais les cyclistes, cyclistes par 40 degrés.
Et puis l'exemple qui est donné, c'est-à-dire qu'on dit d'un côté ne faites pas du vélo en plein cagnard, etc. Et de l'autre, on montre à la télévision tous les jours des sportifs qui vont... Alors certes, ils sont sportifs de haut niveau, donc un organisme qui est plus tolérant, mais c'est vrai que on peut ne pas bien comprendre. Donc le message, c'est...
Vous, bah, même, on ne comprend pas du tout.
Bah, oui, non, mais c'est quand on est pas sportif de haut niveau, restez chez vous, ne faites pas de vélo. Mais c'est vrai que si vraiment il y a là, ils sont dans les Alpes, mais il y avait vraiment des températures extrêmement élevées. Je pense qu'il y aurait une ou deux étapes qui pourraient être annulées sans aucun problème. Ça n'a pas été le cas parce qu'ils sont dans les Alpes. C'est un peu ventilé, mais attention, pas de vélo.
La SNCF va-t-elle devoir changer de nombreux kilomètres de rails pour les adapter à ce changement climatique? Bah oui, si.
Ça restera du fer. Et donc, ça restera
un acquis.
Voilà. Donc, changer le rail, ce n'est pas la solution.
Il y en a qui les panier en blanc.
Voilà, c'est peut-être.
Et s'il était tout simplement déjà trop tard pour sauver la planète et nous avec?
Il nous reste
10 ans. Barral, dites-nous non.
Non, moi je ne pense pas du tout. On est dans un des pays qui peut s'adapter.
Et bien c'est sur ce message d'espoir que se termine cette émission. Merci beaucoup Anne-Laure Barral. C'est dans l'air, rediffusé ce soir à 22h40. Merci de votre fidélité et bonne soirée sur France 5.